Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. Dans cet épisode, on ressort Clandestino de José Manuel Tomás Arturo Chao, alias Manu Chao. 4 ans après la fin de la Mano Negra, le chanteur, musicien, voyageur revient en 98 avec un album solo en forme de carnet de voyage. C'est un disque malin, dépouillé et engagé, assez loin musicalement de l'énergie punk à laquelle il nous avait habitués avec la Mano. Clandestino efface les frontières entre l'Europe et l'Amérique du Sud, mélange aussi bien le reggae et la rumba que le rock et les musiques latines traditionnelles. Bonnet péruvien vissé sur la tête et guitare à la main, le petit bonhomme va réussir à un exploit formidable, celui de faire de Clandestino l'album le plus vendu en France pendant les 90s, juste derrière Francis Cabrel. Clandestino, c'est un disque mythique pour toute une génération et on en parle tout de suite maintenant avec le Cassette Crew. On va vous raconter l'Odyssée Manu Chao avec Olivia.
Hola chicos!
On sera à l'estudio Clandestino avec Grégoire.
Claro que si!
Et on reviendra sur la pochette et ses clips avec Fanny.
Bonsoir!
Alors on va commencer par s'écouter l'album en mode Fast and Furious, Ay Caramba!
Solo voy con mi pena. Sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, de prisa, rumbo perdido. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Je ne t'aime plus, mon amour, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Noticias en Radio Francia Internacional. Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos.
Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la llorando, lágrima de oro, hay por la calle brotando, lágrima de oro.
Can't you hear me, mama call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall?
¿Pero qué demonios hablan?
Esperando la última.
Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana.
Bienvenida a Tijuana.
Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón.
Por la calle del desengaño. Alegría ahogaré dentro un vasito de Jerez. Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas.
Pide la vida a Tokio, pide 5 euros mal. Quelle heure est-il au paradis?
Je pars en voyage, je m'en vais, Tokyo, je m'en vais,
pide 5 euros mal.
Et je sais que je reviens
au paradis.
Tout va bien.
Oh, miña maconia, miña torcida, miña querida.
Hola Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh? Hasta luego.
El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera. Por la carretera.
Waouh, voilà pour les 16 titres de Clandestino. Alors c'est le premier album solo de Manu Chao, il sort au printemps, c'est le 17 avril 1998, il sort en CD, cassette, vinyle et mini-disque chez Virgin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1998, c'est l'année où la France remporte la Coupe du Monde.
On s'en souvient pas mal, hein.
et pendant quelques jours, on est tous français et on s'aime. On arrive aussi à coincer Pinochet. Le sous-commandant Marcos, lui, est toujours planqué au Chiapas. Et en France, on crée l'assaut Attaque, cher aux altermondialistes.
Tu l'as un peu aiguillé politique, là, Stan, cette fois. Hein.
Un petit peu, bah ouais. Ouais, on change. Hein. On change. C'est pas la première fois qu'on parle de l'année 98. En France, on va voir Titanic, c'est le film le plus cher de l'histoire. On découvre Garou dans Notre-Dame de Paris et 200 000 personnes participeront à la première techno-parade.
J'y étais pas.
Alors, on va commencer par faire un petit tour de table. On se souvient tous de Clandestino, je crois. On va commencer par toi, Olivia.
Ah ben, bien sûr qu'on s'en souvient tous, évidemment. En fait, je dois bien vous avouer qu'en préparant l'épisode, je me suis souvenu que j'avais oublié que j'avais aimé Manu Chao. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, je me suis rappelé que ça avait été quand même une grosse partie de mon adolescence.
Ouais. Tu l'avais occulté.
Complètement. J'avais complètement.
C'était un traumatisme d'enfance.
Non, pas du tout, parce que j'assume. Mais ça m'est revenu vraiment. Ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté, et ça m'est revenu d'un coup d'un seul. Je me suis rappelé que ça m'avait ouvert vers toute cette musique d'Amérique du Sud. Il y avait Lassa aussi à l'époque qui chantait, etc. Et je me suis souvenu que j'avais eu ces prémices de conscience politique avec Manu Chao. Donc tu vois un petit peu quel type de conscience ça peut être.
Je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, une conscience politique plutôt de gauche, hein, voilà.
C'est possible. Donc ça m'a rappelé vraiment énormément de choses, et c'est vraiment le début de mon lycée, Manu Chao. Et il y avait un peu, on va dire, alors pardon si je choque les puristes, mais il y avait un peu deux pôles dans ma jeunesse. Il y avait d'un côté Noir Désir et l'autre Manu Chao. Je suis allée vers un côté très, de manière, c'est sûr et certain, c'était le rock, évident. J'ai continué à écouter du rock et j'ai complètement oublié Manu Chao, mais je suis contente qu'il soit de retour.
Ah bon bah cool, très bien. Et toi Greg, du coup, ça te rappelle quoi?
Alors moi désolé, mais aucun souvenir. En fait, le seul souvenir que j'ai, c'est une sorte de matraquage. C'était l'époque où on entendait Clandestino, mais tout le temps à la radio. Et je me disais que ça, c'était vraiment un marqueur des années 90, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, bah t'écoutes un peu ce que tu veux. On écoute peut-être moins les radios musicales aujourd'hui. On va plus écouter des podcasts, donc tu choisis un peu ce que t'écoutes. Voilà, on est plus dans une société du flux. T'es plus dans une société où tu choisis ce que t'écoutes.
C'est ton analyse du jour.
C'est mon analyse. C'est complètement méta. Là,
c'est
en train
complètement
de dire.
Méta. C'est pas du tout un truc personnel ou intime, parce que c'est vrai que j'ai pas de souvenir très précis, hormis l'omniprésence de cet album, quoi, sur les ondes, dans les clips, partout. C'était un truc, c'était un vrai phénomène culturel. Et donc voilà. Moi, le souvenir que j'ai, c'est cette omniprésence de Manu Chao partout, qui nous matraquait la gueule comme on le faisait si bien dans les années 90.
Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi, parce que j'ai l'impression cet album, moi, à l'époque, de l'avoir entendu à l'insu de mon plein gré, comme on
c'est
dit
ça,
dans les
ça,
guignols.
C'est ça.
Parce que, et même là, en l'écoutant, je chantais par cœur la première piste, alors que je n'ai jamais écouté cet album véritablement.
Et alors que tu parles pas espagnol.
Alors que je parle pas espagnol. Comment est-ce que je pouvais connaître les paroles? Enfin, c'est assez fou. Donc, c'est clair que c'était extrêmement présent. Et me concernant, j'ai aussi un souvenir, alors qui n'est pas particulièrement lié à Manu Chao, mais qui est une association bizarre qui s'est faite dans ma tête. En 1998, tu l'as pas dit Manu, mais c'est l'année de création du Big Deal de la GAF.
Oh, ah ouais.
Très grande année.
Il y avait Ramucho. Mais oui.
Avec le bonnet péruvien.
Le mec qui faisait de la flûte de pan, fallait retrouver le morceau qui jouait la flûte de pan.
Voilà, et moi, et en fait, bizarrement, c'est pas bizarrement, mais c'est juste que dans ma tête, j'ai totalement... fait un mix entre Ramucho du Big Deal et Manu Chao du bonnet péruvien, et même une sorte d'extension, c'est qu'en fait la musique, enfin le type de musique que fait Manu Chao, pour moi c'est de la musique de Ramucho, voilà.
Okay,
et ouais. Et toi Manu, ouais.
Alors moi c'est un souvenir de cours d'espagnol, en fait, parce que je me souviens très bien, je vous avais parlé à l'époque de Noir Désir, qu'en 6e on avait fait un exposé avec Grégoire, si tu nous regardes.
Et je suis là.
Ouais. Et en 4e, je me retrouve en 4e quand sort cet album de Manu Chao, et du coup qu'est-ce que je fais? Ben je vais voir ma prof d'espagnol qui s'appelle Madame Lacoste, que je salue au passage.
Hola Madame Lacoste.
Voilà. Et je lui dis, ah ça serait trop cool d'étudier ce morceau Clandestino, des apparitions ou je sais pas quoi, enfin les morceaux de l'album de Manu Chao. Elle me dit, ah ouais, ouais, ok, super idée, ok. Et du coup, on l'a étudié comme ça, Clandestino. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en rebossant un petit peu sur cet album, bah, je vois qu'en fait, c'est un classique en fait, pour apprendre l'espagnol.
Exactement. Ouais, voilà. Manu Chao était super fier de ça. C'est un des trucs dont il est le plus fier, c'est que ce soit un support éducatif. Voilà, que ça a été.
Et des classes entières de collégiens qui hurlent marijuana illégale. Évidemment, bah, ça marche bien.
Bah, je t'avoue qu'en plus, dans un lycée privé comme celui dans lequel j'étais,
je t'en donnais à cœur joie.
Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, ce qui.
C'est un joli mot, marijuana, ceci dit. Hein. Marijuana, c'est.
Ça me rappelait ta fille comme ça,
c'est ce que j'allais dire.
Marie-Jeanne.
Non, et puis surtout, ça a changé de mécano. Parce qu'à l'époque, faut pas oublier qu'en cours d'espagnol, chaque fois, tu te tapais mécano avec
Hierro
de la Luna.
Ouais, c'est
voilà, donc ça sentait
les
bon les années 80. Fallait que ça change un peu.
Ouais,
voilà.
Donc merci Manu Chao, rien que pour ça.
J'ai pas fait espagnol.
Non, moi non plus, je vais vous avouer que j'ai pas fait espagnol. En revanche, je suis partie en Erasmus à Madrid quelques années plus tard.
Erasmus,
si. Et évidemment, Manu Chao était un petit peu tout le temps. C'est un peu Erasmus, c'est l'esprit de Manu Chao, quoi. Monde mécain.
C'est un joli lien entre la France aussi et puis la culture hispanique.
Exactement. Donc il était présent un peu partout, quoi. Ouais. Je crois qu'on a tout dit. On peut arrêter le.
Je crois qu'on a tout dit. Effectivement.
Merci beaucoup.
On a fait un bon tour de table, les gens. Merci. On va maintenant revenir un peu en arrière. On va revenir sur le parcours et l'incroyable histoire de Manu Chao.
Mais tout à fait, mon cher Manu, parce que on vient de le dire. Donc Manu Chao, c'est un monument de mon adolescence déjà. Et
déjà,
puis
ça vaut le coup de
le plus important.
C'est très important. Et c'est un monument des années 90. Rendez-vous compte, c'est 1 800 000 exemplaires vendus en France. 1 200 000 exemplaires vendus dans le monde, sans compter évidemment les cassettes pirates en Amérique du Sud.
Et oui.
Et ça, il y en a un paquet.
L'album remporte en 99 une victoire de la musique dans la catégorie musique traditionnelle ou musique du monde. Et à l'époque, voilà comment France 3 le présentait dans le JT de notre chère Élise Lucem.
C'est un citoyen du monde qui se mobilise contre la mondialisation, mais il n'utilise pas de slogan, juste des chansons. En quelques mois, Manu Chao est devenu un symbole et son dernier album a remporté un succès planétaire. Il en a vendu plus d'1,5 million. Ses concerts affichent complets. Il était hier soir à Paris après une tournée de plus de 4 mois partout en France. Sabine Gourny, Jean-Pierre Heckmann.
Donc, nous sommes en 93, Manu est encore le chanteur de la Mano Negra, groupe mythique de rock alternatif qu'il a fondé donc, dans les années 80 avec ses potes, son frère Tonio et son cousin Santi. La Mano Negra, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est, je cite Manu, de la musette avec des paroles apache et l'esprit chorizo. En gros, un joyeux bordel festif, de la bonne humeur, les copains et la vie comme elle vient. On va d'ailleurs s'écouter un petit extrait de Malavida.
Mi corazón, no sé por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me estás dando.
Me estás dando
mala vida. Ya dice la trama, mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón.
Donc, je vous l'ai dit, on est en 93, la Mano Negra part en tournée tous ensemble plusieurs mois au fin fond de la Colombie. Il traverse le pays en train et s'arrête non pas dans les grandes villes, mais dans les tout petits villages de campagne. La plupart du temps, donc sur des possessions de ce cher Pablo Escobar ou des FARC, donc les forces armées révolutionnaires de Colombie. Ils vont à la rencontre des paysans, des ouvriers, d'une population qui n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de troubadours débarquer chez eux. Ils sont d'ailleurs accompagnés par des musiciens, des acrobates, des tatoueurs, des marginaux, et même le père de Manu Chao, qui suit le périple en tant que journaliste, il va d'ailleurs le raconter dans un livre qui s'appelle « Un train de glace et de feu ». Bref, une joyeuse petite bande, mais au final, pas si joyeuse que ça.
Aha.
Beaucoup de concerts, beaucoup de rencontres, beaucoup de galères. Pour Manu Chao, le périple colombien, ça va devenir l'album Casa Babylone, le dernier album de la Mano Negra, qui donc sort en mai 94. C'est pour lui l'une des plus belles expériences de sa vie, mais pour le reste de la Mano Negra, pas du tout, c'est l'une des pires expériences. Certains d'ailleurs vont quitter l'aventure très tôt, et c'est finalement tout le groupe qui va finir par disparaître. Il en parle, Manu, dans une des interviews qu'il accorde aux Un Rock en 98.
Les tensions devenues inévitables vers la fin étaient proportionnelles à l'amour qu'il y avait entre nous. Nos relations n'ont en tout cas jamais été tièdes. que ce soit dans les moments d'engueulade ou de bonheur, c'était toujours intense, comme dans un couple. C'est déjà passablement compliqué de s'entendre à deux, alors lorsqu'on est 12, les problèmes sont multipliés par autant.
Tu fais super bien, Manu.
J'essaie, on me le dit souvent.
J'adore le sosie vocal. J'adore le ton de Grégoire quand il lit les extraits. On dirait Guillaume Gallienne, tu sais.
Acteur studio.
Les tensions de Manu. Donc, Manu va avoir beaucoup de mal à se relever de cette séparation avec ses amis d'enfance. Cette utopie collective de la Mano Negra se termine ici, dans la peine et l'amertume.
La fête est finie. Ouais.
C'est ça. Plusieurs morceaux d'ailleurs de l'album Clandestino racontent cette séparation comme une rupture amoureuse. La Mano, c'était toute sa vie, il va falloir qu'il en trouve une autre. Quelques mois de déprime, une traversée du désert comme on dit dans le vocabulaire journalistique. Puis il décide de reprendre la route, Manu tout seul cette fois. Il part sans trop savoir où il va, ce qu'il cherche, il erre. Logé par des potes et au gré de ses rencontres, il traîne son spleen en Amérique latine, au Sénégal, au Brésil. Il ne le sait pas encore, mais cette errance va durer presque 4 ans et va constituer le terreau de Clandestino. Il cherche l'inspiration, écrit des textes et continue à enregistrer des morceaux dans son studio mobile. Il devient le desaparecido, le disparu qu'il chantera plus tard. Ce qu'il décrit dans les paroles d'ailleurs de Clandestino, Manu Chao l'a vu, l'a vécu.
Lorsque tu voyages beaucoup, les problèmes de frontières et de visas apparaissent de façon très tangible. Moi, si on m'enlevait le droit de circuler, ce serait dramatique. Pendant ces 4 ans, ma situation s'est un peu rapprochée de celle des clandestins, même si je suis bien sûr un clandestin de luxe, parce que je peux choisir de partir ou de rester et parce que je n'ai pas de soucis matériels.
Donc ça, c'est toujours dans l'interview aux Un Rock en 98. Virgin, sa maison de disques depuis la Mano, veut le faire signer pour un disque et avance 65 000 francs pour qu'il retourne en studio. Manu finit donc par rentrer avec dans sa valise 67 chansons composées pendant son périple. Il enregistre ce qu'il pense être le tout dernier album de sa carrière. En effet, quelques jours avant la sortie du disque, en avril 98, il disait aux gens qu'il croisait que Clandestino est juste une maquette. Mais à sa grande surprise, le disque est un énorme succès et sa carrière prend un nouveau départ.
Ça me rappelle un peu la trajectoire de Moby, qui lui aussi, avec l'album Play, pensait que ça serait...
C'était la fin.
La fin.
Voilà. Ouais. Donc avec ce disque, Manu Chao surprend et va à la rencontre d'un autre public plus porté vers la musique latine. Il va aussi décevoir certains fans de la Mano Negra, forcément, les amoureux du pachanga, mélange de punk, rock, rap, reggae, ska, de rail, de soul music, de samba, de ballade, soit le style musical défini par la Mano Negra.
Gros pot pourri.
On met tout, les mecs,
taboulé. On fout tout dedans.
Mais donc ramène aussi des nouveaux fans, ceux qui se retrouvent dans la Malegria, un mélange entre la Malavida, la mauvaise vie, et l'Alegria, la joie. Une raison de s'accrocher aux chansons tristes, joyeuses, pleines d'espoir et de détresse. Manu chante ceux qui n'ont pas de papier, les frontières où l'on attend et où on joue son destin, la marijuana encore illégale, les guerriers qui combattent la Grande Babylone, les racines qu'on chérit mais qu'il faut savoir transcender, les peines de cœur, les copains, la vie un peu foutraque mais belle à laquelle on cherche à donner un sens. Manu Chao sans la Mano, c'est le pop, reggae, rock, électronique latino. Le son qui vient de Bogota, de la Havane, de Rio de Janeiro, du Mexico, d'Algérie, de Buenos Aires, de Galice, de Barcelone, de la banlieue de Paris, de Tijuana. Manu Chao est partout, il est comme la raie dans la mer, courir est son destin. Ouais, je sais, je suis bilingue. L'album connaît un énorme succès en France, en Espagne, en Italie, au Québec et bien sûr en Amérique du Sud. Le disque devient le deuxième album le plus vendu en France, tu l'as dit Manu, derrière notre cher ami Francis Cabrel.
Tout à fait.
Indétrônable.
Et devant Céline Dion, devant l'album 2 qu'on avait fait également.
Balèze. Incroyable. Et ce, malgré quand même les refus de Énergie, RTL2 et Europe 2 de programmer Clandestino, qui trouvaient que les chansons ne rentraient pas du tout dans le format. Donc, pour la première fois depuis des années, Manu arrive à poser ses valises quelque part et se fixe alors à Barcelone, répétant avec son groupe Radio Bemba. Pour sa promo, Manu se fait rare, choisit les médias et adopte une stratégie marketing discrète. Ça lui réussit puisque le disque est numéro 1 pendant plus de 180 semaines.
Et à l'époque, il choisit d'éviter les plateaux télé. Il se lance vraiment tout doucement. Ça commence un peu discrètement quand même. Hein.
Absolument. Mais ça va s'installer quand même parmi les meilleures ventes françaises pendant des années, tu l'as dit.
Et c'est bizarre qu'avec Greg, on ait souvenir que ça a été matraqué partout si tu listes des plein de stations de radio.
Mais c'était au début. Ils ont raccroché les wagons.
Voilà, ils ont raccroché les wagons un peu plus tard.
Okay. Ouais, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas passer à côté, mais au début ils avaient refusé parce que ça rentrait pas du tout dans le format de la radio de l'époque.
Parce que c'est un mec qui vient du rock, c'est un mec qui a vraiment ce truc-là, et puis tout d'un coup il part sur des morceaux très musique du monde, tu vois, c'est même là-dedans qu'il a gagné une victoire, donc forcément c'est certes le même artiste, mais tu changes complètement de registre.
Et René, le joueur de Diabolo, là, on va être obligé de le programmer finalement.
Surtout, il devient un porte-drapeau, le visage de l'altermondialisme et de tous ses combats. Un rôle d'ailleurs qu'il n'aime pas beaucoup. Dans Courrier International, il explique
« On m'a collé cette étiquette de porte-drapeau du mouvement altermondialiste parce que je suis allé manifester à Gênes et que les alters aiment bien mes chansons. La presse avait besoin de trouver une tête d'affiche et c'est tombé sur moi. Mais je ne suis ni un symbole, ni un porte-parole. Je suis musicien. »
Et c'est beau ce qu'il dit Manu.
Ouais, c'est beau.
C'est profond.
Mais d'ailleurs, c'est un truc qu'on lui reproche parfois, c'est de pas s'engager. C'est-à-dire que c'est un mec qui est de tous les combats, qui est là, mais qui s'engage pas sur le long terme. C'est un peu un truc qui revient chez lui. C'est
un mec, quoi.
Non, mais c'est le gars qui s'est fait un peu happer. C'est un gars qui a du mal à avoir une stratégie sur le long terme, quoi. C'est un gars qui veut pas se prendre la tête, quoi, et qui veut pas être récupéré.
Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que quand même, il est signé chez Virgin, une maison de disques puissante.
Ouais.
Le système, donc, Manu l'a intégré, il en fait partie. Il le sait d'ailleurs et il répond à ses détracteurs. On écoute un extrait d'Envoyé spécial qui a suivi Manu Chao en tournée en Russie en 2002.
Scandale. L'icône anti-mondialisation vend des compacts dans le monde entier. Des disques par millions dans les hypermarchés d'Argentine ou d'Espagne. Une contradiction indéfendable pour les puristes. Oui, Manu Chao est dans le système. Il le revendique même.
Oui, je commerce. Et il est où le problème? Et ceux qui font des critiques, là, je leur dis, et vous commercez pas? Vous ne commercez pas, votre savoir-faire? Tout le monde commerce. Sauf quelques idéalistes qui sont formidables, qui ont décidé de couper les ponts avec cette merde de société et qui vivent à la montagne et perdus dans les champs et qui cultivent leurs champs. Là, je dis oui, j'accepte toutes les critiques de ces gens-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je gagne pas des millions de dollars sur les pays du tiers-monde. Les millions de dollars, je les gagne en Europe.
Mais on fait une émission sur Manu Chao ou sur Florent Pagny, là? Je suis très sûre.
C'est vrai, on parle jamais de ses impôts. Il les paye où, les impôts, Manu Chao?
J'ai l'impression que t'as un petit peu un double discours avec Manu, c'est-à-dire que certes, ce qu'il dit, effectivement, son argent, ça le regarde pas, mais en même temps, il s'est fait de la thune, il le dit, il le fait dans les pays européens, mais c'est vrai qu'en fait il s'est servi d'une matière première qui est les enregistrements de la radio, qui est des mecs qui vont jouer des percus dans la rue ou des trucs.
Il a un sens de la déontologie un petit peu bien à lui.
Voilà, la
sur
rue,
ce côté là
la voilà. Rue, ça lui appartient, voilà.
Et après, il met tout dans son compact.
j'ai bien aimé les compacts ouais.
Pour pas dire 10 deux fois, c'est n'importe quoi.
D'ailleurs, Grégoire, je me tourne vers toi parce que tu vas nous raconter l'enregistrement de Clandestino, une histoire assez dingue qui commence du coup en Amérique latine.
Oui, on est après 1994 et la rupture avec La Mano. Manu Chao, guitare sur le dos, commence à bourlinguer entre Rio, Buenos Aires, La Havane, Mexico, encore Bogota, une ville qui l'a beaucoup inspiré. Pendant 4 ans, on l'a vu avec Olivia, hein, Manu va se créer une sorte de carnet de voyage sonore avec un mini studio portatif. On le rappelle, on est dans les années 90, le home studio se démocratise et Manu Chao, qui veut s'émanciper de l'enregistrement studio classique, trouve ici la liberté qu'il recherche. On se fait un petit point matos. Je sais que Manu, tu apprécies beaucoup ces détails techniques. Donc, il a quoi? Il a un DAT, hein, c'est un format cassette, une sorte de format cassette amélioré en fait, un 8 pistes, une boîte à rythme, un casque et un radio cassette pour écouter immédiatement ce qu'il vient d'enregistrer. Et enfin,
Il a un radio cassette, le type.
Ouais, il a un radio cassette.
Enfin, c'est un fan à nous.
Mais grave.
Et bien sûr, un ordinateur portable. Et donc, c'est avec ce matériel que Manu se balade pour chasser l'instant, enregistrer des musiciens de rue, on l'a dit, des émissions télé, des conversations dans des bars. Il explique d'ailleurs cette manière de travailler à Anne Sinclair dans une émission qui s'appelait Le Choc des Cultures sur France 3. C'était en 2002.
J'aime avoir mon studio avec moi, je l'ai dans mon sac à dos pour être... Pour être toujours opérationnel, disons que quand l'inspiration est là, être tout de suite
prêt à enregistrer. Je crois que c'est, enfin, ma manière de travailler, c'est ça, c'est d'ouvrir ma porte le plus possible au hasard. Le hasard, c'est le plus grand artiste de tous les temps, je crois. Donc je travaille avec lui.
Et de saisir le moment qui passe.
Eh ben oui.
Eh ben oui. Eh ben oui. Donc Greg, Manu Chao, il se retrouve avec toute cette matière première accumulée pendant 4 ans. C'est le méga bordel, il en a plein. Il va falloir maintenant faire le tri là-dedans.
Ouais, et c'est un travail titanesque. Et cette phase, elle se déroule à Sèvres, dans sa banlieue natale, dans un studio que Manu Chao a bricolé. Une petite pièce tapissée de vieux tickets de concerts des Clash et d'affiches de combats de catch au Mexique. La partie mixage, elle, aura lieu au studio Ferber dans le 20e. Alors pour l'aider à faire le tri dans cette masse d'enregistrements, Manu Chao appelle à la rescousse le jeune ingénieur du son Renaud Letan, également natif de Sèvres et qui s'est fait un nom en travaillant sur l'album C'est déjà ça d'Alain Souchon ou encore sur les concerts de Jean-Michel Jarre. Et oui, je sais que Fanny, t'es fan de Jean-Michel Jarre. Les deux compères vont extraire 40 morceaux de cette matière première, des titres qui seront également utilisés pour l'album suivant, Proxima Estación.
Esperanza.
Si. À l'époque, Manu Chao veut faire de cet album un disque d'électro. Il est passionné depuis plusieurs années par la techno hardcore. D'ailleurs, après la fin de la Mano Negra, il est allé à Londres pour collaborer avec le groupe Leadfield, un groupe qui fusionne house, dub et reggae. Mais l'expérience ne donnera rien. Et donc Clandestino aurait dû ressembler à un disque d'électro un peu sale et énervé, sauf qu'un bug informatique va en décider autrement, non pas le bug de l'an 2000, mais le bug Clandestino.
C'est génial.
En fait, Renaud Letan perd tous les beats électroniques qui devaient habiller l'album, ne reste que l'ossature des morceaux, des maquettes, dira Manu Chao de manière un peu ironique. Ne reste que l'essentiel, en fait, de courts morceaux un peu naïfs et bricolés qui fleurbont le charango et les cuivres mariachi et qui rappellent aussi le côté un peu déglingué de certains morceaux de la Mano Negra, comme King of the Bongo, repris sur Clandestino.
C'est fou ce à quoi on a échappé.
J'ai du mal à imaginer. Hein.
Ouais. Non, c'est clair. J'ai essayé de regarder, j'ai fouillé partout si je trouvais pas genre les versions des démos, mais évidemment, tu les as pas puisqu'il les a perdu en fait.
Mais ouais. Ça serait marrant que quelqu'un fasse un remix en foutant des rythmes de techno hardcore dessus.
Eh ben, il y en a eu.
Ah alors, oui, c'est vrai.
Ouais, j'ai écouté ça. Bon, c'est pas terrible. En tout cas, tu sens des trucs un peu hardcore. Et quand t'écoutes ce que fait Leadfield à l'époque, ça envoie du bois. Hein. C'est, ouais. C'est en mode rêve. ça déglingue bien ta tête. Quoi. Donc c'est super marrant, quoi. C'est super marrant. Et alors malgré tout, Clandestino va emprunter des éléments à la culture électro.
Ouais, c'est vrai que même si ça ressemble pas du tout à un disque d'électro, en fait, pas tant que ça finalement, puisque il y a quand même l'utilisation de samples dans l'album. On peut citer par exemple celui du titre Tell Me Is It True du groupe de reggae britannique UB40, utilisé sur le titre Mentira. Et puis, il y a aussi tous ces éléments sonores qui vont agir comme des gimmicks et que l'on va retrouver sur plusieurs morceaux, avec cette impression de voir défiler devant nos yeux un seul et même film sonore, une sorte de grand mix ininterrompu. Finalement, derrière ces allures de disque acoustique, on a en fait affaire à un disque d'électro, du pur collage, explique Renaud Letan. On prend un bout de percussionniste de Rio dont on fait une loupe avant de les faire jammer avec des musiciens mexicains. On ajoute des cuivres et des basses avec le logiciel Pro Tools et on progresse de cette façon, un peu comme du Lego. D'ailleurs, c'est comme cela qu'est construit Clandestino, avec cette superposition de voix qui finissent par s'entremêler, le tout enveloppé avec ce grain sonore très marqué, un peu comme si on écoutait un vieux 78 tours sur un gramophone. Et ce patchwork sonore, il traduit bien aussi l'époque dans laquelle est créé Clandestino. Selon Véronique Mortaigne, dans son livre intitulé « Un nomade contemporain », Manu Chao illustre avec ce disque l'émergence de la société de l'information d'une planète bavarde qui sans cesse digère des flux continus de mots, de bruits et de communications.
Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. la magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre.
Et alors dans ce bouquin, t'as Renaud Le Temps, qui explique qu'ils se sont pris la tête pendant des mois à essayer de faire coller en fait tous ces collages qui étaient pris à peu près à droite.
Ça devait être un travail de dingo, ça. T'imagines, c'est comme des rushers. Il devait y avoir des centaines et des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement, et donc faut choisir qu'est-ce qu'on choisit, comment on le loupe,
comment on lui donne du sens. Ouais. Parce que c'est pas évident d'arriver. Alors je suis désolé, moi je suis passé un peu à côté. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'est que je parle pas espagnol, mais en tout cas, dans l'idée, c'est que ça fasse écho les petites bribes de conversation, d'enregistrement
comme
de radio.
Une conversation unique, en fait.
Exactement.
Les gens se répondraient. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que finalement, il enregistrait, comme tu le disais, avec son petit radio cassette. Et bon, ça fait très collage, un petit peu, il y a un grain, mais malgré tout, c'est quand même pas des choses.
Ah, Ouais, c'est ce qu'on appelle un album surproduit, en fait.
Voilà,
c'est-à-dire que effectivement, à la base, c'est assez bricolé, c'est assez simple. Après, le matos qu'il a, Manu Chao, c'est quand même assez correct pour enregistrer. Le son devait pas être non plus tout pourri, mais c'est ce qu'on appelle un album surproduit, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le travail de post-production
c'est
qui est gigantesque.
Ouais.
C'est ça. Ouais.
Et du coup, cet album, Manu Chao, il le décrit comme un disque de Malegria.
Oui, on en a parlé un petit peu avec Olivia. En fait, la Malegria, c'est un néologisme inventé par Manu Chao qui signifie littéralement la maljoie, une sorte de saudade à l'heure de la mondialisation. C'est une manière de décrire un son à la fois festif et pessimiste, car derrière ces airs nonchalants, clandestinos, mais évidemment au centre de son discours, la question des migrants, des villes frontières où les illusions s'envolent, comme dans Tijuana. Le disque parle aussi de rupture amoureuse avec le célèbre « Je ne t'aime plus » chanté en duo avec Anouk Khalifa, son amour de jeunesse, ancienne choriste de la Mano Negra et avec laquelle il renoue à cette époque.
Et d'ailleurs, c'est elle qui produit en partie cet album,
ouais,
parce que c'est un peu la seule personne en qui il a confiance pour partir en carrière solo, quoi. Il est toujours dans un cercle très familial, il y a les parents qui sont pas loin.
Voilà, j'ai pas pu trouver vraiment ce qu'elle avait fait réellement. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas trop compris ce qu'elle avait fait sur Clandestino, très clairement.
Bah très clairement, non. En tout cas, je sais qu'elle est créditée comme plus ou moins productrice,
voilà.
Et voilà, elle défend les intérêts de Manu.
Elle l'a inspirée.
Voilà.
Et puis Clandestino, on peut dire que c'est aussi un autoportrait quelque part de Manu Chao, une série de cartes postales nostalgiques de la vie de ce nomade insaisissable, une vie qu'il décrit dans El Desaparecido, le disparu.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no.
On va maintenant revenir sur ce patchwork d'influence. On va revenir sur cette musique. Le reste est dans la même tonalité en termes d'image, en termes de clip, en termes de pochette, Fanny.
Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Le côté nomade de Manu Chao, son côté voyageur sans frontières, est plutôt bien retranscrit dès la pochette de Clandestino, qui est d'ailleurs très bien composée visuellement. Dans la moitié gauche, on peut voir un portrait en pied de Manu Chao adossé à un vieux mur fissuré. Il porte un baggy noir, une chemise rayée rouge et blanche, ouverte jusqu'au nombril, sexy.
A mí me gusta.
Et il a son petit bonnet de Ramucho sur la tête. Derrière lui, sur le mur, on devine une vieille peinture qui semble représenter des grandes feuilles d'arbre vertes, couleur que l'on retrouve dans la moitié droite de la pochette où le nom du chanteur est comme peint au pochoir sur le mur. Sous ce nom, en plus petit, on a le titre de l'album et un sous-titre qui dit « Esperando la última ola », en attendant la dernière vague.
C'est beau.
Quand tu vois cette image, tu te dis que tu es en Amérique latine. Le vieux mur rappelle Cuba, les couleurs choisies sont celles du drapeau mexicain. Il y a déjà visuellement une volonté de s'ancrer dans l'idée du voyage, voire même du vagabondage. Il manque plus qu'un petit balotin avec ses affaires au bout d'un bâton. Et on y est. Grâce à cet artwork, on peut citer aussi un gros point commun entre Manu Chao et Rage Against the Machine. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ?
Alors là,
moi je ne
vois pas, non.
Là...
Eh bien, figurez-vous qu'on retrouve par-ci, par-là, des petites étoiles rouges ou noires qui sont le symbole de l'armée zapatiste mexicaine de libération nationale, ou EZLN, fameux courant politique anarcho-communiste cher à Zac de la Roca, et dont on a parlé dans notre épisode sur RATM.
Tout à fait,
c'est la petite
le t-shirt.
Le...
le t-shirt alors, de Manu.
Ouais, complètement. Et puis tu l'as également sur le Ciao,
dans le A de Ciao. Et à l'intérieur de la pochette, il y a des étoiles un peu partout. Voilà, quand vous...
Pour faire un peu révolutionnaire, quoi.
Vous jouerez à... C'est pas où est Charlie, c'est où est la petite étoile. Et donc ce petit côté altermondialiste qui n'était pas non plus pour déplaire à Manu Chao, qui nous glisse ses petites étoiles partout, discretos. Enfin, pas tellement discretos, puisque dans les remerciements à l'intérieur du livret, il y a écrit que l'album est dédicado à Eza Delen, México. En premier, le tout premier remerciement, c'est pour Eza Delen. Puis la Caravane des quartiers, une asso qui va dans les quartiers avec des spectacles de toutes sortes pour recréer du lien et de la solidarité. Et enfin, le mouvement musical galicien, Galizia Bravo, une manière claire et nette de montrer son soutien aux causes qui lui sont chères.
Alors je crois qu'il y a également un deuxième point commun avec Rage Against the Machine. Manu Chao a fait leur première partie en Coachella, c'était en 2007, avec son groupe Radio Bemba devant plus de 70 000 spectateurs dont quasi aucun ne le connaissait. C'est plutôt pas mal.
Grave, c'est complètement fou comme anecdote. Et bon, refermons la petite parenthèse zapatiste pour revenir à l'artwork de l'album qui contient aussi plein de collages et dessins faits à la main par Manu Chao dans un style très folk art, facilement reconnaissable aux couleurs vives, jaune, rouge, pur, qui semble sortir tout droit du tube de peinture. Ça pique un peu les yeux, mais c'est aussi hyper joyeux. Créditons maintenant ceux qui doivent être crédités. Au graphisme, je cite Monsieur Franck Loriot, qui a été chef du service graphique de Virgin entre 1997 et 2000. Et depuis 1999, c'est lui aussi qui gère la direction artistique des couves du magazine Rock and Folk. Donc c'est un nom assez connu du graphisme dans l'industrie musicale en France, et à qui l'on doit de très belles pochettes pour Yann Tersen, R, Jean-Louis Murat, Higelin, père et fils, Dominique A, bref, beaucoup beaucoup de beau monde. Les photos de la pochette, elles ont été prises par le photographe français Yuri Lanquette, qui a une très belle carrière dans la photo de rock. Les Clash, le Gun Club, Noir Désir, Iggy Pop, Lou Reed, Nick Cave, tous les grands noms sont passés devant son objectif.
C'est très rock hein, quand même.
Ouais, mais enfin, c'est hyper beau ces photos, je vous conseille d'aller les voir. Et quand j'ai vu son nom, d'ailleurs j'ai tiqué, je me disais que ça me disait quelque chose. Et effectivement, je suis déjà tombée sur le travail de Yuri Lanquette il y a quelques années, parce que c'est lui qui a pris les toutes dernières photos pro de Kurt Cobain en février 1994, quelques semaines avant son suicide. La fameuse séance prémonitoire où il joue avec un flingue, c'est complètement fou.
Ouais.
Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ces images, sinon
si,
allez
si, on l'avait utilisé pour notre blind test, on l'avait mis en avant celle-ci. Effectivement, il le met sur la tempe, clairement. Quoi.
Ouais, et c'est des images quand Kurt est mort, qui ont beaucoup tourné. Ouais. Bah oui, évidemment. Donc je vous conseille, voilà, faites un petit tour sur le site de ce photographe. Il y a plein de super portraits à découvrir.
On arrive toujours à faire un lien avec Nirvana, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Il y a toujours un moment où Nirvana arrive.
C'est la pierre
arrive,
angulaire. Ouais, c'est
désolé, c'est mon petit crush. Yuri Lanquette, il a beaucoup suivi la Mano Negra pendant les années 90. Il est parti avec le groupe lors d'une traversée de la Colombie en train, où il faisait des stops dans plein de petits bleds perdus pour jouer. Et c'est donc un personnage familier dans l'entourage de Manu Chao qui fait naturellement appel à lui pour son album solo.
Et donc, il a l'air plutôt fidèle dans ses choix de collaborateur, le Manu Chao. Et il me semble que ça confirme, que ça se confirme avec le réalisateur du clip de Clandestino.
Ouais, tout à fait. Le réalisateur, il s'appelle François Bergeron. C'est un cinéaste indépendant qui a pas mal œuvré dans le rap. Il a bossé avec IAM, NTM, Doc Gynéco, avec les Béreux et Noirs aussi dans un autre style. Et surtout, il a bossé à plusieurs reprises avec Mano Negra dès le début des années 90. C'est lui, par exemple, qui a fait le documentaire America Perdida en 92, qui suit le groupe en tournée. Il a fait d'autres projets avec la Mano et retrouve donc Manu Chao quelques années plus tard pour le clip de Clandestino. La vidéo de Clandestino est une illustration assez littérale des paroles scandées par le chanteur qui font référence à la migration des populations pauvres du sud vers l'hémisphère nord pour trouver du travail. Cette main-d'œuvre illégale, sans papier, clandestine, qui travaille au noir, l'expression d'ailleurs Mano Negra, elle vient de là. Et dans le clip, on peut voir une succession de plans rapprochés sur les visages de personnes du monde entier qui semblent marcher dans notre direction en suivant Manu Chao. Certains brandissent des papiers à la caméra, des passeports, des cartes d'embarquement, des photos de famille. Autant de preuves de leur origine, de leur identité. Cette vidéo, comme la chanson, questionne la liberté de circulation, la violence des systèmes judiciaires qui décident de ce qui est légal ou non. Mine de rien, en quelques courtes minutes, Manu Chao et Bergeron arrivent à faire passer un message politique fort à l'Union européenne. Quelle politique d'accueil est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous voulez être dans le rejet ou l'acceptation de l'autre? C'est un vaste sujet, mais avec cette chanson et ce clip, Manu Chao remplit avec brio sa mission d'artiste qui utilise modestement l'audience qui lui est donnée pour faire passer des messages. Pour terminer, je fais une mini parenthèse sur les autres clips extraits de l'album Clandestino et qui sont nombreux puisqu'il y en a 5 en tout, mais qui tous parlent à leur manière de voyage, de diversité, de multiculturalisme et qui célèbrent la beauté du monde. Une manière de dire qu'on est plus fort quand on est ouvert sur les autres, quand on est curieux, tolérant et qu'on laisse un peu nos préjugés au placard. Oups, là c'est peut-être moi qui en profite pour faire passer un message. Peace everyone, on sera toujours tous le Clandestino de quelqu'un.
Waouh, wow. Applaudissements,
c'est beau.
C'est
ce
beau.
Que tu dis.
Franchement. Moi ça me rappelle, je me souviens en cours de français dans ces années-là, notre prof nous avait demandé si on se sentait français, européen, ouais. Et moi j'avais dit citoyenne du monde.
Wow.
Ouais, trop.
T'as
beau.
Vu la meilleure note, j'espère.
Évidemment.
non, mais Manu, tout à l'heure, tu parlais de 98, la victoire de la France à la Coupe du Monde.
La France Black Blamber.
La France Black Blamber, et on scandait, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Et on est là-dedans, et c'est la vérité.
Bon, depuis, ça a bien changé. Malheureusement.
C'est ça, ça marche quand on gagne la Coupe, la Coupe du Monde.
Tous des enfants d'immigrés.
Alors, on a parlé de los zapatistos, on a parlé del bonito peruano et de los desaparecidos. C'est le moment maintenant de faire le bilan de Clandestino. Alors, on l'a tous réécouté en fumant des grosses feuilles d'arbres. alors, c'est comment ? On commence par toi, Grégoire. Est-ce que cette fois, tu as ressorti ta guitare ?
Franchement, je vais l'avouer, mais pas vraiment. J'ai même quelque chose d'un petit peu honteux à vous avouer.
T'as pas écouté ?
Si, je l'ai écouté, mais peut-être un petit peu en mode Fast and Furious.
C'est vrai.
Non, j'avoue, je l'ai réécouté un peu en mode Fast and Furious, ça m'a vite saoulé. Je trouve que c'est très lisse, c'est un petit peu ennuyeux, et effectivement, le fait peut-être d'avoir été tellement bassiné par Clandestino à cette époque-là, du coup, je sais pas, mon cerveau a fait un peu un rejet, comme si on essayait de me forcer à manger des épinards que j'avais pas aimé quand j'étais petit à la cantine. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'au fond,
Manu Chao, c'est plein de fer, hein, c'est très bon.
Je trouvais ça plutôt cool quand je l'ai écouté, mais... je trouvais ça plutôt bien, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu saoulé.
Est-ce que c'est pas parce qu'à l'époque c'était assez frais comme discours, en tout cas, on avait l'âge pour le recevoir, et que maintenant, 20 ans plus tard, c'est un
Là, je l'écoutais juste vraiment. Purement la
l'art
musique,
pour l'art.
Ouais, l'art pour l'art, exactement. Et après, il y a deux morceaux que j'aime bien, toujours Mentira, El Desaparecido aussi, je le trouve cool. Mais sur la longueur, ça m'ennuie un peu, je trouve ça un peu lisse, un petit peu musique d'ascenseur. Voilà, désolé. Et je crois que Fanny partage un peu cet avis, il me semble.
T'en penses quoi, toi, Fanny ?
Non, mais c'est ce que j'allais dire, justement, tu parlais de Mentira, qui est un morceau que j'aime beaucoup, mais à chaque fois que j'entends le petit tin-tin-tin.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Fanny Gignès.
Exactement, t'as l'impression que c'est Pôle emploi qui vient de te mettre en attendant d'être pris par un conseiller, tu vois. Donc il y a ce côté super, comme on dit, easy listening, tu vois.
Ouais, easy listening, ouais.
Ça serait un message politique super fort qu'ils mettent ça, tu vois, en musique de front.
Et moi, écoute, j'aimerais bien dire un truc méchant, mais en fait, j'ai vachement pris de plaisir à l'écouter.
Ça me fait plaisir.
D'une
ça.
Oreille moyennement attentif, mais disons tu lances l'album et c'est hyper agréable, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire.
Mais est-ce que c'est pas pour ça que justement la charge politique de Clandestino, elle est un peu faible quelque part, parce que tu t'as un message altermondialiste super fort avec de la musique d'ascenseur, quoi, excusez-moi, mais tu vois, c'est hyper lisse, même si le travail technique, on en a parlé, il est incroyable, et que ça reste quand même des morceaux qui restent dans la tête et qui sont cool. On a parlé de Rage Against the Machine, c'est quand même autre chose, hein. C'est encore utilisé aujourd'hui dans des manifestations. Oui, mais je veux dire,
je compare pas.
Je dis juste que la charge politique censée être contenue dans Clandestino est un petit peu annulée cette musique très lisse.
Mais c'est une politique qui parle. Enfin, tu vois, c'est un peu de la politique de quand tu veux contester ton père au dîner au déjeuner
du
dimanche.
Voilà, c'est ça. On est d'accord.
Avec
on
le
est d'accord.
Poulet et enfin, si tu veux, pour le coup, moi. Si ça m'attend plus à l'époque, c'est parce que j'avais 16 ans. Et enfin, je le vois comme ça aussi.
Mais alors aujourd'hui, Olivia, qu'est-ce que t'en as pensé aujourd'hui ?
Eh ben, typiquement, pour moi, c'est l'album qui définit un petit peu l'exercice Radio Cassette. C'est que ça te plonge dans une grosse nostalgie, que tu te rappelles évidemment de la personne que tu étais il y a quelques années.
Tu veux qu'on en parle ?
Non, je vais pas m'allonger tout de suite pour faire ma psychanalyse, mais voilà, moi c'est vraiment, ça m'est revenu, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, tout m'est revenu d'un coup d'un seul, où je me suis rappelé vraiment mes années de lycée, où j'allais manifester contre le G8 à Gênes, où je scandais des...
T'es allée à Gênes ?
Non, j'étais pas très loin, j'étais à Genève.
Mais j'étais en communion spirituelle avec eux.
T'enlèves deux lettres, c'est bon. Important.
Non, mais alors vous ne le savez pas, mais à l'époque, il y avait eu des énormes manifestations à Genève. Ils avaient barricadé les banques et vraiment les bijoutiers, etc. Parce qu'il y avait eu des pillages, ce qui était un petit peu fou à Genève.
Ouais, c'était pire que les gilets jaunes.
Nous, pour nous, ouais, c'était ressenti, c'était un gros traumatisme. Et donc, j'étais allée manifester et tout. Et voilà, et la bande-son de tout ça, c'était évidemment Manu Chao. Aujourd'hui, je crois que je n'écouterai plus. Parce que en effet, c'est un petit peu lisse, comme tu l'as dit, mon cher Greg. mais je le réécoute parce que ça me raconte une partie de moi-même et de ma vie. Voilà.
Et toi, Manu ?
Alors moi, je vous trouve hyper dur, en fait.
Mais c'est son côté.
C'est bien
un
qu'on
peu...
soit pas d'accord un peu là.
Oui, parce que faut placer les choses dans son contexte. Le mec, c'est pas Rage Against the Machine.
Mais
il a pas sorti des grosses guitares. Okay. Il l'a fait avec la mano. Il passe à autre chose.
Ok.
Voilà.
Ok.
En termes de style, deux approches différentes. Après, moi, ce que je trouve hyper fort, et je me suis bien amusé à faire le petit mix qu'on a entendu au début, c'est effectivement tout le côté électronique, en fait, tout le travail sur les boucles, les petits sons. J'ai cherché pendant des heures si je trouvais pas le sampleur ultime Manu Chao avec les petits bruits, tu sais. C'était le petit porte-clés qui te faisait l'atterrissage de la bombe en 8 bits, tu sais, c'était ce genre de truc. Ouais, exactement, tous ces petits trucs. Tu le fais très mal.
Ouais, mais n'empêche, vous avez reconnu.
Ouais, on a reconnu, mais tous ces petits trucs que je trouve génial. Bon, bref, impossible à retrouver. Mais en tout cas, ce que je trouve dingue, en fait, et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'il y a un énorme travail qui est fait sur la structure du son, et le mec invente vraiment quelque chose avec ça. C'est un truc qui a influencé derrière lui plein de gens dans le rap contemporain.
Mais ça, on le redit pas. On dit juste, par rapport au plaisir d'écoute aujourd'hui,
bah oui, mais moi, mon plaisir d'écoute, c'était redécouvrir, en fait, si tu veux, la manière dont il est enraciné aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je pourrais te citer quelques rappeurs qui réutilisent le rythme de Bongo Mong, Je ne t'aime plus, etc. C'est ultra samplé, ce truc. C'est le gars a vraiment inventé un truc avec ça. Le gars, pas tout seul, il y avait Renaud Le Temps avec lui. Mais voilà, moi, j'ai vraiment fait une redécouverte. Et en fait, si je reviens un petit peu en arrière, j'ai adoré cet album à sa sortie. Après, il a été matraqué. J'en pouvais plus.
Ouais, c'est ça le problème.
Et voilà, le gars devenait un peu une parodie de lui-même. Son deuxième album, oui, Proxima Station, c'était
un peu pareil.
Ce qui est une suite, en fait, s'ils ont utilisé la même matière première pour en faire un autre album. Ils avaient trop, en fait.
S'il avait 67 chansons au départ, il fallait bien les caser sur deux albums.
Et il y a un petit truc aussi qui me gavait, hein, pour être très honnête là-dessus, c'est que quand t'écoutes le petit rythme qui est chamé, chaloupé sur Bongo Bong, que tu retrouves sur Je ne t'aime plus sur le premier album, tu le retrouves aussi sur Mr. Bobby sur l'album d'après.
T'as
l'impression que tous ses singles, il les a fait là-dessus.
Il y a un côté un peu agaçant.
Il a tiré le fil.
C'est agaçant, mais franchement, de le réécouter, ça m'a fait un bien fou parce que tout d'un coup, c'était un album que je connaissais par cœur, mais que je découvrais tout d'un coup avec un autre prisme. C'était le travail musical, la prod qui avait été faite, dont je ne me rendais pas compte à l'époque.
Moi non plus. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ça, par contre, j'ai appris des choses là-dessus. Ouais.
Et ce que j'ai trouvé également hyper ouf quand je l'ai réécouté, c'est que tu as des morceaux, tu te dis putain, mais là on l'entend à peine, mais il y a de la drum and bass qui a deux doigts de taper, de tout défoncer, t'as de la machina, t'as des trucs, tu sens que t'as des morceaux qui pourraient vraiment envoyer du lourd.
T'as deux doigts, mais t'y es pas.
Mais non, t'y es pas. Alors certes, ça reste de la musique d'ascenseur, des pouillés, etc. Mais mine de rien, il y a cette attention qui est formidable et je trouve qu'un. Et puis un dernier truc que je veux dire, puis après
je... je pense qu'on va s'en prendre une dans deux minutes si on continue.
Il est vénère.
Non, moi ce que je trouve hyper, hyper intéressant, c'est que il y a un truc dont tu parlais, Grégoire, c'est le côté un petit peu qu'on a aujourd'hui avec le podcast, c'est-à-dire quand tu vas faire du reportage, tu vas prendre ton petit enregistreur, tu vas faire quelque chose, tu vas construire quelque chose avec. Et tout est dans le mixage, dans la manière d'assembler les sons, et je trouve que c'est ultra moderne. Aujourd'hui, quand tu regardes plein de podcasts, un peu d'investigation, des podcasts de reportage, tu te retrouves ce truc-là, ce travail.
Tu veux dire que c'est le père du podcast ?
Non, c'est pas le père du podcast, mais quelque part, ce que je veux dire, c'est qu'il a...
Il y a un côté radiophonique et reportage,
oui,
finalement.
Bien sûr, bien sûr.
Il sent la mort à la radio. Ça,
c'est vrai. Les voix.
Il est sur le terrain. Il prend des conversations. Il y a ce côté-là.
Ça, à l'écoute, la fluidité, la manière dont tout s'imbrique, tous les morceaux à la suite, c'est hyper agréable à écouter. Hein. Je dois dire que
mais un petit peu ennuyeux.
Non, en fait, moi, je pense que c'est ennuyeux parce qu'on l'a trop réécouté.
Mais oui, non, c'est sûr.
Et moi,
je veux dire, ça va. Oui, vas-y, Olivia.
Non, ce que je voudrais saluer aussi, c'est quand même ce moment où ils se sont rendus compte qu'ils ont tout perdu et qu'à un moment il a fallu tout reconstruire, j'admire quand même cette capacité à te dire purée, tout l'album est foutu, et bah, va falloir qu'on reparte sur autre chose. Je trouve que c'est quand même, enfin, on en avait parlé avec Moby, c'est vrai, mais c'est quand même assez fort de se dire ok, ben bah, on y va, on se relance dans un truc. Je trouve
le mec, il voulait prendre sa retraite peinard. En fait, il se retrouve avec un carton, il va être obligé de continuer à faire de la musique.
Ah, oh, zut.
Et je pense que c'est un truc qui doit le miner, hein, parce que tout à l'heure, on l'écoutait dans l'interview d'Élise Lucet, il a un problème avec l'argent, quelque
bien
part.
Sûr, bien sûr, bien sûr.
Parce que lui, son idéal absolu, c'est d'être un mec de la rue. C'est un gars qui vient d'une famille d'intello, c'est un gars qui a fait des études, c'est un gars qui a cherché le contact de ces gens de la rue, des
bien
circassiens,
sûr, ouais,
de
ouais.
vivre une vie comme ça, de bohème. Absolument. Ouais. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ultra tabou parce qu'il y a plein de gens qui l'ont renié parce qu'il avait ce côté altermondialiste, ce côté
ouais.
rock'n'roll vraiment de pur et dur. Et que tout d'un coup, quand t'as le succès qui tombe dessus, quand tout d'un coup, t'as de la thune qui vient. Qu'est-ce que t'en fais ? Je sais pas ce qu'il en fait.
Moi, c'est pour ça que j'écoutais pas. C'est parce qu'il y a tellement une étiquette évidente, genre zadiste, jongli-jonglo, là, les pieds sales et tout.
Jongli-jonglo, j'adore.
Ça, c'est pour nos auditeurs de droite. Fanny est là pour vous. Je sais pas, tu vois, enfin bon.
À retrouver sur Radio Courtoisie, notamment ta chronique.
Je dénonce, je n'ai pas peur, monsieur Zemmour.
Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Si, je voulais dire un truc.
Son étiquette était trop évidente.
Tu disais jongli-jonglo. T'as perdu.
Non, je voulais enchaîner sur un truc dont personne n'a parlé, qui était que Robbie Williams a repris la chanson Bongo Bang.
C'est vrai.
Absolument.
Personne n'en a parlé. Ouais. Et je crois avec Lily Allen d'ailleurs.
King of the Bongo, tu veux dire.
Ah, absolument.
Oui, peut-être. L'un
Alors,
des deux. Je ne sais pas.
Tous les deux, vous avez raison, parce que King of the Bongo, on l'a pas dit, mais c'était d'abord un morceau de la Mano Negra, plutôt rock, avec un rythme très marqué, qu'il a repris en mode Manu Chao
ouais,
solo
ouais,
quoi.
Ouais. Et d'ailleurs avoir la reprise Robbie Williams, ça m'a fait penser aussi un petit peu à un morceau que j'avais vachement aimé sur un album récent de Damon Albarn qui s'appelait Mr. Tembo. Il y a quelque chose bah, du coup peut-être je sais pas Manu Chao a inspiré le podcast, il a inspiré la British Pop, enfin il a inspiré tout le monde.
C'est possible. Hein.
Sacré Manu.
Alors je crois qu'on a bien fait le tour. C'est maintenant la fin de notre émission. On avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte des années 90 avec le Radio Cassette Crew. On avait Fanny ce soir avec nous.
Merci.
Grégoire.
Salut tout le monde.
Ciao,
et
ciao.
Olivia.
Salut.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, on se retrouve sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et puis d'ailleurs, je voudrais revenir sur un commentaire que j'ai bien aimé d'un certain mode Dax sur Apple Podcast qui disait « La base est bonne, mais l'humour style ado attardé est vraiment lourd par moments. Deux des trois filles sont vraiment agaçantes. »
Oh là là, c'est qui la troisième? Merde.
Ce commentaire nous fait beaucoup rire.
Non mais la violence.
Alors, merci mode Dax d'avoir dit tout bas ce que tout le monde pense.
Je me retire du monde politique.
Alors je suis désolé les filles, mais faut vraiment que ça cesse, faut vraiment faire un effort quoi. Okay. Voilà, là on est en train de perdre des auditeurs. Si ça continue, moi j'annule le séminaire de cet été, c'est fini. Ok, reprenez-vous. On se quitte maintenant avec Bong Bong les petits chats. Gros
Bongo.
Bisous et hasta luego amigos.
Ciao.
Ciao.
Bye bye. Ciao. Besitos. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come.
say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo.
King of the bongo, king of the bongo, bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus.